Nous sommes le jeudi 8 mai. Il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Eh ben on est pas mal du tout.
Eh ben moi je suis content que tu ailles bien et je vais très bien aussi. Et en plus, on a...
On a un invité.
Et
vous le connaissez déjà.
Vous le connaissez déjà, mais je vais essayer de le présenter correctement.
Cette fois-ci. Oh.
Alors, la hausse drastique de prix unilatérale annoncée par Microsoft pour ses consoles, accessoires et jeux, les 400 licenciements brutaux chez Electronic Arts, en particulier chez le studio Respawn, les médias Giant Bomb et Polygon restructurés et revendus à la découpe par leurs riches propriétaires à des publicitaires, et tout ça uniquement au cours des deux dernières semaines, autant de nouvelles qui franchement montrent, après semaines, après des mois, après des années, que malgré les résultats records en termes de ventes et en termes de chiffre d'affaires, l'industrie du jeu vidéo est gangrénée par des décideurs bien plus intéressés par le montant de leurs dividendes que par la qualité de leurs jeux, le bien-être de ceux qui font les jeux, ou par une couverture médiatique qui ne serait pas uniquement publicitaire. Dans l'équipe du nerf de la game, nous sommes souvent acerbes et critiques envers ces directions injustes, mais pour contrebalancer, nous accueillons de temps en temps Julien, qui utilise son temps de parole uniquement pour réhabiliter le patronat et insulter les honnêtes gens. Bonsoir Julien.
Quelle introduction.
Mais quel bâtard.
Vraiment, je vois que pour une fois que tu prépares à l'émission, c'est juste pour m'envoyer sous le bus.
C'est ça, c'était précisément vraiment pour te pourrir la gueule.
Je n'ai fait
Bonjour
que...
Romain.
Bienvenue Julien, on est très content que tu sois là. Enfin en tout cas, une des deux personnes ici présentes sont très contentes que tu sois là. Et puis bah du coup, Xavier a décidé d'être un connard. Mais ça, ça ne change pas. Mais du coup, c'est l'occasion effectivement, avec toi et avec Xavier malgré tout, malheureusement, de parler de jeux vidéo.
Oui. Au sommaire aujourd'hui, ce sera la Ludonarakon qu'on évoquera ensemble, les copains.
Fais pas semblant qu'on est potes, d'accord ?
Pardon. Alors, Romain, on est potes. Julien, bonsoir.
Faire autant d'efforts pour être désagréable.
Ah oui, non, c'est un métier, hein. C'est un métier. Mais moi j'attends que tu me lances, sans prix.
Oui, la Ludonarakon, donc, qui est un événement qui permet...
Par contre, ne prends pas mon texte.
Un événement qui permet notamment découvrir des jeux vidéo et de revisiter des vidéos qui sont surtout du côté narratif de la force. Et Romain, est-ce que tu peux nous parler de l'événement et de son historique ?
Alors, la Ludonarakon... Alors, Ludo, on sait ce que c'est. Ludo, ça veut dire jeu. Nara, bah, c'est pour le côté narratif. Et Con, c'est pour le côté convention, conférence. C'est un petit peu ça l'idée derrière ce mot qui a été travaillé et fabriqué à partir de ces différents éléments. La Ludonarakon, donc, c'est une convention numérique mondiale qui célèbre les jeux vidéo narratifs et évidemment les développeurs et les studios qui les développent. L'événement de 2025, qui sera donc l'occasion de fêter la 7e année de cet événement, du festival, s'est déroulé, donc, parce qu'il est déjà fini, et il s'est déroulé du 1er au 5 mai. L'initiative...
Même si la plupart des démos sont encore disponibles aujourd'hui.
Absolument, comme on l'avait déjà dit, effectivement, pour la plupart des Steam Next Fest ou ce genre de choses, la plupart du temps, c'est l'occasion en fait, de mettre en avant ces jeux et les démos qui y sont associés, mais... L'événement perdure après la date indiquée. L'initiative de la Ludonarakon, donc on disait, elle a 7 ans, donc elle a quand même été créée en 2019, elle a été créée à l'origine pour reproduire autant que possible les conventions et expositions physiques, comme les interactions avec les développeurs, les démos jouables, les discussions qui peuvent être liées, dans un format donc numérique. À l'époque, c'était pas spécialement, enfin, j'allais dire novateur, Disons qu'on n'avait pas encore connu un petit événement qui allait un petit peu bouleverser pas mal de choses, qui s'appelle le Covid, qui allait donc redistribuer un petit peu la façon dont on allait découvrir, et puis même physiquement exister au niveau des conventions et des expositions.
Disons qu'il y avait déjà une inspiration via les Nintendo Direct, qui c'était déjà...
C'était les premiers,
qui étaient déjà, justement, des conférences uniquement sur le web, mm-hmm. qui permettaient de découvrir des jeux. La Ludo Narakon ajoutait aussi, en plus du côté démo et présentation de jeux, sachant qu'il n'y a pas de showcase en particulier, qui était oui. plus des discussions par rapport aux différents jeux.
C'est ça. Donc l'objectif initial, c'était de créer une plateforme pour que les jeux narratifs indépendants puissent se promouvoir et discuter de bah, comment est-ce qu'on crée des jeux narratifs et ce que ça signifie. L'événement est organisé à l'origine, et depuis toujours d'ailleurs, par Fellow Traveller. Oui. Fellow Traveller, un éditeur auditeur de jeux indépendants basé à Melbourne en Australie, qui a été fondé en 2011 par Chris Wright, un gars qui bossait pendant des années chez THQ, l'ancienne voiture balai du jeu vidéo, comme
THQ Nordique ou THQ tout court?
THQ tout court.
D'accord.
Là-bas, il bossait au marketing d'adaptation de licences.
Donc c'était à l'ancienne, hein, parce oui. que THQ c'est...
Oui, oui, c'est ça, à l'ancienne. À la base, donc, il bossait sur l'adaptation de licences de films, et plus précisément d'animés, enfin de jeux de films d'animation, comme Cars ou Les Indestructibles. À l'époque, ça a été créé, donc Fellow Traveller s'appelait Surprise Attack Games. C'était le nom d'origine en 2011. Leur première grosse réussite, vraiment commerciale, on va dire que c'est le jeu de piratage Hacknet en 2015.
Excellent jeu, soit dit en passant.
Tout à fait. Avec une bande-son de Carpenter Brut. Enfin, il y a eu. Enfin, moi, je me souviendrai très, 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 très fort.
Hacknet, le jeu que les vrais, ils y jouent sans la partie.
Sans la souris.
Sans la partie graphique, ouais.
Ouais
c'est ça. Uniquement au clavier.
Moi, j'ai découvert un petit peu, effectivement, Hacknet, le côté. Comment tu gères un petit peu ces différents programmes, etc.
Trop bien.
C'est très gamifié, oui. mais il y a une base assez, assez solide.
Je pense que voilà, si tu as un peu fait de Linux à la ligne de code, je pense que tu t'en sors très bien sur Hacknet.
Et
ça se voit qu'il a été fait par des gens...
qui savent ce que c'est.
Oui.
Et il y a un vrai propos narratif aussi autour de ça, autour de... globalement, c'était pour te mettre dans une sorte de groupe de hackers, etc.
Et c'était déjà un jeu qui était brillant dans sa mise en scène.
Tout à fait. Tout à fait. Et du
c'est
coup,
en quelle année?
2015.
D'accord, donc c'était un petit peu avant la vibe. C'est peut-être un des jeux qui a lancé la vibe, justement, des jeux de hackers. Ou comme
alors,
ça.
C'est un petit peu après. Comment il s'appelait le vrai jeu de hack, le premier là,
Ah, je vois pas. Parce que j'ai connu via Hacknet, j'ai pas connu.
Avant, il y en avait un autre. Bref, moi, c'est le premier jeu que j'avais eu sur Steam. Bref, mais oui, c'est dans cette, enfin, c'est celui qui a vraiment explosé commercialement, qui a vraiment cartonné commercialement. Mmh. Et donc, en 2015, mais l'éditeur est devenu Fellow Traveller en 2018, lorsqu'il se spécialise vraiment spécifiquement, donc, dans les jeux narratifs.
C'est comme ça que j'ai connu perso. Hein.
Avec des jeux, donc, on va faire une petite liste, vite fait, comme sortie emblématique. En 2018, vraiment celui qui fait le on va dire la bascule. Orwell, Ignorance is Strength. Donc vraiment, le premier à cette époque-là.
On peut également, un jeu allemand, d'Osmosis, je crois.
Tout à fait. On peut citer de façon non exhaustive The Stillness of the Wind, Neocab, In Other Waters, qui donnera Citizen Sleeper, oui. 1 et 2, The Invisible End, jeu qu'on connaît bien ici.
Et qui est passé à l'Indie Game Lyon, notamment.
Tout à fait. Un petit jeu comme ça, un petit peu connu, 1000 X Resist.
Et c'est possible qu'on en reparle dans pas très longtemps.
De la même façon que Afterlove Hippie.
Pareil.
Voilà, les jeux qu'on peut éventuellement cataloguer dans le catalogue de Fellow Traveller.
Et est-ce que, via la liste que tu as donnée, est-ce que ce sont des jeux que j'ai tous faits, et est-ce que ça me fait en sorte que je suis totalement un vendu à cet éditeur? Oui.
Oui, mais pareil dans une grande majorité.
Oui.
J'ai aussi fait la grande majorité de ces jeux.
Oui, ben je me souviens qu'on avait fait une émission, on avait parlé de Neocab notamment.
Tout à fait. Moi je l'avais
testé
à l'époque.
Excellent jeu narratif.
Alors, je note également que dans la Dune Dragon de cette année 2025, on retrouve quelques jeux de Raw Fury, autre éditeur.
Oui. Très orienté narratif aussi, qui a des origines plutôt du côté point and click, mais oui. qui a étendu aussi sur d'autres domaines.
Mais du coup, qui est relativement présent également, sans être partenaire direct officiel, il fait quand même partie du clan de cette année.
C'est pas étonnant. Alors,
la Ludo Narakon, depuis ses débuts, globalement, c'est un pionnier. C'est un pionnier parce que sur l'écosystème Steam, c'est le premier Steam Festival. avant les Steam Fest. C'est le premier festival, le premier concept de festival numérique sur Steam, qui ensuite a connu un essor considérable avec les Steam Neo Next Fest, qui donc évidemment était là, comme on l'a dit à la base, pour contraster avec les événements physiques. Mais la pandémie a évidemment développé le projet, enfin le concept, jusqu'à ce que, il y a une bande de rigolos qui l'a évoqué dans un podcast disponible sur Presse F5, donc chez Cast F5, une bande de rigolos composée des trois personnes ici présentes, qui l'avaient évoqué donc sur les Steam Next Fest et les Steam Neo Fest. Mais tout a commencé réellement avec la Ludo Narracon, qui était vraiment le premier projet de ce type. Ensuite, au niveau du format, effectivement, donc ça a toujours été numérique, mondial et gratuit au niveau de l'accès, ce qui contrastait effectivement avec les côtés où il fallait physiquement être présent dans ce qu'on appelait à l'époque les E3, les différentes
la Gamescom,
les différentes conventions de ce type,
les TGS, les Tokyo Game Show, etc.
Exactement.
Tout salon du jeu vidéo physique.
C'est ça, qui était à l'époque effectivement géographiquement ciblé, localisé, coûteux. Et oui. Bondé. Le format est donc particulièrement adapté aux jeux narratifs aussi, parce que ce sont des jeux qui peuvent nécessiter un peu plus de temps et un peu plus de calme aussi pour être appréciés dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas forcément le cas dans des endroits bruyants, bondés, comme peuvent l'être. Tu as cité la Gamescom, mais je pourrais parler de la Paris Games Week,
La Paris Games Week, faut venir avec des bouchons d'oreilles. Hein.
Par exemple, parce que c'est pas forcément le projet, et effectivement, du coup, ça correspondait d'autant plus au style.
C'est aussi peut-être une facette technique. Les jeux narratifs sont de fait plus petits, mmh, et du coup un peu plus adaptés au téléchargement, au fait de l'apprécier, tu l'as dit, au fait de l'apprécier chez soi, à son domicile, mais c'est aussi plus facilement téléchargeable plutôt qu'une démo technique de 25 gigas. Les connexions, on va dire que c'est propice à au premier salon.
Enfin, oui.
C'est le type de jeu qui en profite le plus.
Oui, c'est ça.
Des petits jeux légers.
Exactement.
Ça se télécharge bien.
Ça se télécharge vite, tu essayes vite, tu es vite mis dans le contexte. Et tu sais aussi qu'on va te balancer du texte, qu'on va te balancer de l'histoire, qu'on va te balancer des... Après, il va y avoir effectivement différentes façons de le faire. Il va y avoir différentes... C'est un genre assez hybride. Il y a plein de façons de te raconter les choses. Il y a des genres, on va dire des sous-genres.
Faut pas oublier aussi que, enfin, je suis d'accord avec toi, même s'il y a beaucoup de jeux triple A, 3D qui vont essayer de te balancer des histoires, etc. Mais on est sur des jeux indés, et surtout des jeux indés qui, à la base, le dieu de Narracon, si je dis pas de bêtises, c'est 2013, c'est ça?
Non, 2019 du coup.
2019, pardon, excuse-moi.
C'est la 7e édition cette année.
Oui, pardon. 2019, du coup, et que la, enfin, que ça soit les Raw Fury ou les
Fellow Traveler,
quand tu regardes ce qui est techniquement embarqué dans les jeux, c'est quelque chose de plutôt minimaliste.
Oui, bien sûr, oui, également
sans
techniquement.
Sans que ce soit indigent, hein, attention. Hein, ce sont toujours des.
On a effectivement des très beaux
exemples. Par exemple, quand on parlait de NeoCab ou de Orwell, ce sont des jeux en fait qui, d'un point de vue esthétique,
qui proposent une direction artistique travaillée,
qui sont très engageants, travaillés, etc. Mais c'est juste que voilà, si tu veux du Unreal Engine 5 avec la totale de tous les assets possibles, c'est pas vers ces jeux-là, c'est pas vers ces éditeurs-là que tu vas te.
Alors, c'est pas aller. Effectivement le premier choix, ce qui n'empêche pas.
Ça n'empêche pas d'en faire, hein.
C'est possible, et on va en parler,
oui.
Parce que je pense. Alors, au fil du temps, au fil des Ludo Narracon, l'offre s'est enrichie, très clairement. Continue à proposer, effectivement, et à développer ses caractéristiques principales. Donc, on a une sélection officielle qui atteint cette année 49 jeux en 2025. Des démos jouables, on en a une trentaine. Et c'était d'ailleurs obligatoire pour les jeux non sortis de la section officielle de proposer une démo.
Oui.
Les jeux sortis, déjà sortis, nécessitaient pas forcément d'avoir une démo dispo pour faire partie de la sélection, mais les jeux non sortis devaient forcément avoir une démo dispo.
Est-ce que ça te va que avant que tu continues, on fasse le tour, enfin, je donne une petite liste des jeux déjà sortis dont on a déjà parlé dans l'émission.
Alors, si tu veux, même si derrière j'allais un peu parler aussi vite fait des différents, enfin, il y a un volet, on va dire, de la Ludo Narracon qui est toutes les conférences qu'il y a pu avoir.
Justement, je voulais justement parler de ça avant de parler des conférences, si ça te va.
Ok, vas-y.
En fait, notamment, évidemment, par exemple, si on prend la sélection officielle de cette année, le jeu que j'ai mis en premier, c'est pas de ma faute, c'est parce que il commence par un chiffre. C'est Thousand X Resist.
Bien évidemment.
Évidemment, j'ai pas eu le choix.
Tu y as joué ?
Oui.
Parce que je te l'ai offert il y a un moment, connard.
Tu veux qu'on parle de Excavation of Sparrow ou voilà.
Il fait partie de la liste ou pas? Bon, alors.
Je vais pas re-résumer ce qu'il a fait, ce que c'est ce jeu, parce que je vous renvoie vers le podcast qui est disponible sur Presse F5 sur le sujet, vu qu'on en a parlé lors du fameux Steamness Fest. Et d'ailleurs, je me souviens de votre soutien indéfectible pendant ma présentation de Thousand X Resist.
Tu parles bravo du moment vous deux. Où on est parti de la pièce.
Complètement.
Voilà, exactement.
Complètement.
Effectivement, pour sa défense, tu étais un des rares effectivement à défendre ce projet qui ne paie pas de mine, mais qui mérite très clairement d'être, et qui va avoir une traduction française.
C'est
parce
ça.
Qu'ils ont dépassé les 100 000 ventes.
Ils ont eu les 100 000 ventes et il y a une VF en chantier actuellement. On n'a pas de date, mais voilà.
Ça vient.
Et je pense que pour un jeu comme ça, c'est très intéressant d'avoir notamment une VF vu que c'est un jeu qui parle, qui passe beaucoup par l'écrit. Non, parce qu'il y a des jeux dont la narration des fois passe moins par l'écrit. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par l'écrit et par les témoignages écrits de manière générale. Donc, effectivement, c'est une très bonne chose. Tu en as parlé After Love EP. Monsieur Rami. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Je passe dessus.
Pour parler de son décès.
Un modèle de VN. Qui parle de musique notamment, Citizen Sleeper dont tu as parlé, le très 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 méta creepy redneck Dinosaur Mansion 3.
Creepy Mansion, y a pas Mansion dans le nom du jeu?
C'est Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3.
3 voilà. Cherchez pas, il y a jamais eu 2, 1 et 2.
Voilà, et c'est parce que c'est un jeu, c'est un match 3.
Et voilà. Moi j'ai fait la démo, c'était incroyable.
C'est un match 3 qui d'abord on dit c'est juste mettre des choses 3x3 pour faire des combos et on s'aperçoit très rapidement en fait que c'est un jeu qui a conscience d'être un jeu et qui a conscience que vous êtes en train de jouer un jeu. Enfin ça va assez loin dans le délire, oui. C'est vraiment très cool.
C'est un jeu de Scaffold Games de Xavier Nelson Jr. Lui c'est quelqu'un d'intéressant dans sa façon de créer des jeux de façon générale. Faudra en parler de ce gars-là parce qu'il...
Honnêtement, ce que je te propose, c'est qu'un de ces quatre, justement, on se paye ce jeu et qu'on se le finisse et qu'on en reparle parce qu'il y a d'autres jeux.
Il y a plusieurs jeux d'ailleurs de lui, de son studio dans la liste. Il y a également Click Holding.
Oui, il est sorti celui-là.
Oui.
D'accord, mais je l'ai pas mis dans ma liste. Mais tu fais bien d'en parler du coup. Je voulais parler aussi de Death to the Reprobate, donc le jeu de Joe Richardson.
Oui.
Donc la suite de For Last Thing et surtout de l'excellent Procession to Calvary.
To Calvary. Parce que c'est facile de dire cavalerie, mais non en fait.
Calvary. On va au calvaire. Hein. C'est une procession.
Un jeu qui est fabriqué à partir de morceaux de tableaux anciens qui animés à l'arrache. C'est incroyable.
Si basiquement vous aimez l'humour Monty Python,
ouais, voilà.
C'est pour vous.
Voilà. Si dans Monty Python vous vous souvenez notamment des gravures Sacré Graal détournées, c'est complètement ça et c'est incroyablement drôle et stupide. Allez-y. Si vous avez peur, si vous dites tiens, Death to Reprobate, il est peut-être un peu, c'est vrai que c'est le plus abouti de tous.
Oui, c'est le dernier.
Avec For Last Things, normalement en une heure et demie, vous aurez à peu près fait le tour du jeu et vous saurez déjà si vous êtes accro ou pas quoi.
Et petit clin d'œil à l'excellent article de Soupape François à ce sujet sur Canard PC. Qui m'a fait mourir de rire et qui rend très bien honneur à Death of the Reprobate.
Big up à Soupape François que je connais sous le nom de Bofang, à l'époque, c'est comme ça que je l'avais découvert. On a écrit avec lui. On est très très heureux de le voir aujourd'hui dans Canard PC. Parce que vraiment, moi, son écriture, depuis que je l'ai découvert à l'époque et que je lui ai proposé de venir écrire dans Dystopique, je kiffe son écriture.
Et voilà. Parce que Soupape François, ne pas oublier que lui, en fait, il est parti vers des meilleures aventures et Canard PC, alors que nous, on s'est fait virer de Dystopique.
Disons que il est parti chez Canard PC pour accepter un type de poste différent, mais de temps en temps, il a l'occasion d'écrire et c'est toujours un plaisir.
Voilà. Je voulais parler rapidement de Despeloté.
Oui, tu as fait la démo ?
J'ai fait la démo.
Moi aussi.
Et wishlist tout de suite. Il a l'air incroyable.
Pourtant, le foot, ça te parle pas beaucoup, toi ?
Alors, non. Mais là, c'est plus le tiers-monde qui me parle.
Tu es difficile aujourd'hui.
Plus exactement, en fait, c'est un jeu sur un petit garçon qui est absolument fan de foot et qui joue en Équateur.
C'est ça. Et qui découvre donc l'engouement autour de la Coupe du Monde 90.
C'est ça. Coupe du Monde 90, sachant que c'était la première fois que l'Équateur se qualifiait dans la phase finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai adoré le tout début, en fait, où on joue une sorte de kick-off du jeu kick-off
à la version NES,
tout début dans une télé. Mmh. Et puis après, en fait, on va à l'école, toujours avec le ballon et tout ça. Et j'ai trouvé que l'ambiance était incroyable. Pourtant, je suis pas très fan du côté, tu sais, 3D, 2D, avec les sprites qui tournent en même temps que toi. J'ai toujours trouvé tout ça un peu bizarre, mais là, je trouve que ça fonctionne parfaitement, en fait.
Mmh.
Et je suis très impatient de savoir ce que ça donnera en termes de narration. Très cool d'avoir un jeu comme Despeloté.
Il est sorti il y a quelques jours.
Oui, il est sorti. Je crois qu'il est encore en promo sur Steam. Donc ça veut dire qu'il y a moins de deux semaines qu'il est sorti.
Tout à fait.
Voilà. Julien, oui. Il y a un jeu qui s'appelle Until Then aussi dans la.
Un jeu qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. Un
jeu que j'ai acheté.
Mais que tu m'as pas offert.
Et non, parce que tu es un crevard.
Non, mais bien sûr, Until Then.
La démo est incroyable.
Tu vas le présenter mieux que moi, mais c'est un petit bijou.
Oui, Until Then, un jeu narratif. Oh,
très incroyable.
Étonnant, très étonnant. C'est surtout un jeu en fait qui va utiliser les codes narratifs classiques des animés tranches de vie asiatiques. Mais contrairement justement à d'autres jeux dont j'avais déjà parlé comme Space
Unbound, on en reparlera après.
Ouais, voilà. Celui-là en fait va être beaucoup plus moderne. Space of the Unbound se place très naturellement dans les années 90, je dis pas de bêtises. Celui-là est beaucoup plus naturel, donc il y aura beaucoup plus d'utilisation notamment de son téléphone portable,
d'internet
etc. Et surtout en fait il va y avoir dès la démo la manière dont les relations sont creusées et c'est vraiment très 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 fort et très très prenant d'un coup. Tu te dis il y a un truc qui est assez drôle, tu te retrouves rapidement embarqué à essayer de faire tes devoirs en 3 secondes et demie, et cette partie est extrêmement drôle. Et pas très longtemps après t'es avec justement en train de discuter avec une fille c'est quoi l'attachement à ses parents, c'est quoi l'attachement à sa famille, qu'est-ce qui nous lie en fait à notre vie actuelle, mmh. de façon très profonde, et tu te dis putain, je veux savoir où ça emmène, et la démo s'arrête à peu près là. Mmh. et pourtant c'est en peu de mots au final, tu vois.
Ok, mais ça vous a marqué.
Ça fait partie des démos, je l'ai lancé, j'y ai joué à peu près 10 minutes, parce que c'est une démo qui est très bien conçue, elle fait ressentir tout le potentiel qu'il y a derrière, tout le potentiel de la narration, de la profondeur de la narration, et on se dit waouh, il y en a en fait à dire. J'ai pas envie de poncer la démo parce que j'ai juste envie de profiter de la totalité du titre
quand il sera sorti.
Ouais, et puis okay. Surtout il y a une histoire de mise en scène,
et c'est si beau.
Oui, alors déjà bon, c'est du pixel art plus. C'est vraiment très joli, avec notamment des effets de profondeur, ce qui est plutôt rare en fait dans ce genre d'arme. Et surtout des effets de mise en scène, de transition,
okay.
qui sont, enfin, c'est
techniquement
c'est,
quoi, il y a en plus quelque chose. Quoi.
Ouais, et puis c'est doux quoi. C'est vraiment très bien. Enfin, Until Then fait partie des jeux où je me dis tiens, va falloir que je me pose un moment, et que quand je veux le manger, je vais vraiment le manger quoi.
En fait, il fait partie de ces jeux narratifs qui ont la vibe de Coffee Talk. Mmh. Et si vous connaissez Coffee Talk, en fait, c'est un peu. Pour moi, en tout cas, c'est devenu un peu un standard dans la un maître étalon dans le monde du jeu narratif. Tellement c'est doudou, tellement ça vous pose, et tellement en fait vous êtes obligé de vous arrêter pour pas tomber le truc en une nuit. Mmh. Et voilà, c'est bon. Il faut pas non plus mettre des standards absolument partout, mais c'est vrai que Coffee Talk est très très bon, et Until Then m'a donné cette vibe là.
Oui, il y a après, je pense de toute façon, il y a, on en a déjà parlé ici, mais il y a toute une scène d'Asie du Sud-Est qui commence à émerger, notamment sur tout ce qui est jeu narratif.
Oui.
Voilà, parce que bon, il y a d'autres types de jeux, hein, mais sur les jeux narratifs, entre eux, effectivement, dont tu parlais de Coffee Talk, on a parlé de After Love EP juste avant, Space of the Unbound, Until Then n'est pas un jeu indonésien, mais je crois que c'est un jeu singapourien, si je dis pas de conneries, donc okay. C'est pas si loin, c'est la Malaisie, hein,
c'est Asie du Sud-Est
aussi, donc il y a vraiment une vibe en ce moment. Il y a un autre jeu dont je parlerai aussi qui vient de là-bas et qui est de la sélection et qui fait partie plutôt là des démos.
Des démos qu'on a pu essayer.
Voilà. Je finirai juste rapidement par Wonderstop, dont on a déjà parlé auparavant. Oui. Bon, il a été. Normalement, Wonderstop, c'est selon moi le jeu qui a été le plus mis en avant.
Plus marketé,
notamment par Annapurna ces derniers temps. Et qui, donc, vous trouverez de toute façon des articles, des critiques dessus un peu partout sur Internet.
Sorti il y a 2 mois ou 3 mois.
Voilà, sorti il y a 2 mois.
Un jeu qui traite du burn-out.
Un propos extrêmement intéressant
sur le sujet.
Sur le sujet. Avant qu'on parle justement des démos auxquelles on aura pu jouer, je te laisse parler donc des conférences qui ont pu avoir lieu.
Alors, on a eu effectivement un live stream principal qui a duré 15 heures, donc quand même, avec des discussions approfondies. Et dont je vais parler un peu plus en détail, mais il y a eu également donc une vente, enfin des soldes massives, parce que ça concernait quasiment 150 titres sur Steam pendant la Ludo de Narakon.
Donc, tu veux parler du bundle ou pas?
Alors oui, je vais parler du bundle également. D'un bundle donc des éditions précédentes est également proposé. Alors le bundle en question, pour célébrer l'événement, un bundle de 10 jeux, riche en histoire évidemment, parce que c'est comme ça qu'ils sont présentés, a été proposé avec une forte réduction, et une réduction d'autant plus importante qu'on en possède déjà une partie. C'est un des avantages, et je trouve une des meilleures idées de Steam, de te proposer en fait d'acheter des ensembles de titres moins cher que si tu en possèdes déjà des morceaux. Mmh. Et donc, dans ce bundle de 10 jeux, on peut citer donc les 10 jeux qui en faisaient partie. On avait Sable.
J'ai.
On avait Genesis Noir.
J'ai.
Norco.
J'ai pas.
The Pale Beyond.
J'ai.
A Space for the Unbound.
J'ai.
Citizen Sleeper 1.
J'ai.
Beacon Pines.
J'ai.
Not for Broadcast. J'ai. Incroyable jeu.
Pale Beyond Pine, vraiment je le conseille. Hein, très aussi, cool.
Ok. Needy Girl Overdose.
Ça me dit rien.
Monster Prom 3 Monster Road Trip.
Je l'ai pas, mais je vois ce que c'est.
Le 10e jeu de ce bundle qui est toujours actuellement, je crois, disponible. Il y a encore une promo en fait si on achète tous les jeux qui en font partie.
Vu ce qu'il m'en reste, je crois qu'il doit être à 3,5 balles. Bon.
Voilà. il est moins cher. C'est des réductions supplémentaires si on possède déjà des morceaux du truc.
Mais
c'est
bon,
très très intéressant si on veut. On va dire. Moi je considère que c'est un très bon.
C'est un excellent bundle. Hein. Franchement,
c'est un excellent échantillon de ce que représente la Ludo Narakon. C'est tous des jeux très différents dans les univers, dans les narrations, dans les gameplays. Il y a beaucoup de choses différentes dans ces différents jeux.
Parce que, par exemple, Sable, c'est un jeu d'exploration.
Exactement.
Beacon the Pine, c'est pour le coup, c'est un jeu plutôt d'embranchement.
Not for Broadcast, c'est vraiment un jeu de décision. On a aussi Norco, qui est un point and click. Enfin, on a plein de façons différentes.
Citizen Sleeper, qui est un RPG.
Citizen Sleeper, qui est un RPG aussi, à sa façon. C'est discutable, on est plus complètement d'accord.
Citizen Sleeper est plus difficile d'accès, je trouve, de par sa narration qui est un petit peu plus proche d'un livre dont vous êtes le héros.
Par contre, c'est. Citizen Sleeper, c'est pavé de texte, attention. Hein, il faut savoir.
Enfin, on parle de Ludo Narakon, on est quand même dans un domaine où on va tout présenter du texte.
Pour le coup,
pas tous, hein.
Typiquement.
Space for the Unbound, c'est pas forcément.
Space for the Unbound, si t'as pas envie de lire, c'est bon.
Voilà.
Beacon
Pines.
Sable.
Sable. Oui,
si t'as pas envie de trop lire,
non,
c'est
là
pas
c'est
un problème.
C'est de la narration environnementale.
Ouais, vraiment.
Sable, c'est de la narration environnementale, en partie.
Au passage, si jamais vous cherchez une porte d'entrée dans le jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui l'offre elle est tellement vaste qu'on peut comprendre que quelqu'un qui a joué il y a quelques années, on va dire qui a découvert des jeux quand on avait la dizaine, quand on était gamin, et qu'aujourd'hui on se dit « Ah, j'aimerais bien retoucher un jeu vidéo, mais je sais pas par où commencer, où j'aimerais bien faire découvrir le
GTA
jeu
6.
À mes enfants, un truc comme ça. Chut, toi. Vendu. Le jeu narratif est une très bonne porte d'entrée, parce qu'en termes de mécanique, bah, y a pas des masses de choses à maîtriser. Vous n'avez pas à voir les réflexes ou l'apprentissage.
C'est pas du skill qu'on te demande.
Voilà,
pas,
sur lequel les jeux.
Même s'il y a du gameplay. Même s'il y a du gameplay. Même s'il y a du gameplay qui peut avoir une certaine profondeur, effectivement, c'est pas le skill qui va être demandé en premier. Ouais.
Voilà. Et c'est une très bonne porte d'entrée dans le jeu vidéo. Je pense notamment à Gris.
Oui, j'allais dire. Quoique Unbeatable.
Oui. Ah, mais complètement.
Non, ça,
tu peux aussi. Non, mais tu peux aussi,
ça, c'est
effectivement.
C'est juste ton âge qui te rend mauvais.
Non, c'est pas que ton âge.
Mais tu peux allier, effectivement. C'est tout l'intérêt, en fait, de. Le principe de la narration, c'est pas un type de gameplay. C'est un objectif.
C'est ça.
C'est une façon, c'est-à-dire que t'es là
c'est
pour...
C'est pas un type de jeu. C'est ça. Ce que j'aime bien avec la Ludo Narracon, c'est que c'est pas... En fait, c'est la garantie que, lors du jeu, on va vous raconter un truc. Après, le forme de gameplay peut être extrêmement différente. Tu peux autant avoir un jeu de voiture, un Metroidvania, un jeu d'exploration, un RPG,
un point and click,
mais c'est juste qu'on va mettre l'emphase sur comment te raconter une histoire.
Et un point qui est malgré tout important, parce qu'on parle quand même de produits, c'est pas des jeux qui sont très chers. On parle pas de jeux qui sont à 60-70 euros. Je pense que plein pot, un jeu narratif, la moyenne des jeux, c'est 20 euros.
Oui, ça doit être 20 balles. La 20 balles à plein pot.
La très très grande majorité,
c'est 20 balles.
Pas les 20 balles.
Voilà. Clairement. Donc, c'est pour ça aussi
pour ça
qu'on parle de porte d'entrée.
Ouais.
Parce qu'en fait, ce ne sont pas des jeux qui sont extrêmement chers. C'est des jeux qui sont mécaniquement accessibles et financièrement accessibles.
Et du coup, il y a effectivement aussi l'objectif de tous ces jeux et l'objectif de Fellow Traveler, qui n'est pas. Comme on le disait, il y a d'autres jeux, il n'y a pas que des jeux qui sont édités par Fellow Traveler dans la liste et dans le principe de base. Il y a un petit peu cet objectif, voilà, de se soutenir et de améliorer la visibilité, ce qu'on appelle la discoverability en anglais, de ces jeux indépendants. Donc voilà, la Ludo Narracon, elle a effectivement évolué avec les années, et mais malgré tout, depuis le début, il y avait cette logique et cet objectif de présenter également des discussions entre différentes personnes, que ce soit des créateurs, soit des observateurs du média. On a par exemple Daniel O'Dwyer, qui est un des fondateurs de NoClip, les créateurs de documentaires autour des jeux vidéo, de la création des jeux vidéo, qui a participé à des talks avec des créateurs de jeux vidéo. On a notamment on a Sam Lake, qui est donc un des auteurs de Alan Wake,
oui,
qui est venu parler pendant cet événement.
Auteur aussi de Max Payne.
Max Payne également, effectivement. Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Control, tous les jeux Remedy.
Tous les jeux Remedy, en fait,
globalement.
Hein, simplement.
On a One Fantasy X Resist, dont tu as parlé, qui a été discuté par Rémi Siou, Pinky Lee et Chris Plant. Chris Plant, qui est donc lui, qui était le journaliste autour de ça, mais
oui,
les autres.
Rémi Siou, c'est plus narrative designer, si je me souviens bien.
C'est ça, du jeu. Despeloté, donc exploré par Daniel O'Dwyer et Julian Cordero, donc qui est un des auteurs équatoriens du jeu. On a également Patrick Keplak, qui fait partie de Remap, qui est un média qui est créé par les gens qui se sont fait virer de la colonne jeux vidéo de... je ne sais plus quel média.
Récemment
Il y a quelques années.
Ah non.
Il y a un ou deux ans. Bref, ce sont des créateurs, en fait, des observateurs du média, hein, des journalistes, ce genre de choses, qui sont allés parler avec Danny Vreden. Danny Vreden, donc un des principaux, enfin la figure de Stanley Parable, Beginner's Guide et Wonderstop.
Oui, surtout Wonderstop.
Spécifiquement dans le cadre de cette Ludo Narracon, c'était Wonderstop. Mais le gars était connu spécifiquement pour The Stanley Parable. Et c'est justement le travail qu'il a fait depuis Stanley Parable qui l'a amené à créer Wonderstop, dont le sujet, comme tu le disais, Julien, est le burn-out.
Il me semblait que c'était après le travail sur Ultra Deluxe qui s'est mis à...
C'est ça, parce qu'il a fait une version Ultra Deluxe de Stanley Parable qui l'a entraîné
jeu. Alors, j'ai toujours pas joué Ultra Deluxe, c'est un tort.
Plus effectivement de Stanley Parable.
Oui, mais justement, il y a carrément justement un deuxième jeu avec un autre propos sur la création qui l'a mené justement à aller sur Wonderstop.
Tout à fait. On a aussi également des gens de Color Grey. Color Grey, donc c'est The Case and the Rise of the Golden Idol, dont les créateurs Andrzej et Ernest Klavins, je suppose qu'ils sont lettoniens ou lituaniens, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais bref, les fondateurs
du studio, c'est soit letton, soit lituanien,
je crois, c'est pour ça que j'ai un doute et je suis désolé, qui parlait de ça avec Daniel O'Dwyer, donc encore une fois, un des membres fondateurs de Noclip. On avait également les jeux Not Hot School, qui avait été présenté avec The Crimson Diamond de Julia Minamata, qui est un point and click vraiment très très à l'ancienne, en graphisme en EGA, en 16 couleurs, enfin bref, on avait également Crow Country d'Adam Vian, qui est un Resident Evil revisité, modernisé, mais en même temps avec un aspect très très old school, très très rétro. Et également donc Yann Morgan, je pense plutôt parce que c'est un français, qui a créé les Inspector Waffles de Gobuso, oui. Games, donc quelqu'un qu'on avait également rencontré à l'Indie Game Lyon ces dernières années.
Il y a quelques années, oui.
Tout à fait, qui était venu parler de ça, qui ont c'est également des gens comme Julia Minimata qui avait participé à la création de Space Warlord Organ Trading Simulator, un jeu de Strange Scaffold, dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. De Xavier Nelson Jr. Également donc Adam Vian, il avait bossé sur Paradise Killer, sur Detective Grimoire, sur, je ne sais pas si ça vous parle, sur ces jeux-là. Mais voilà, donc il y avait également des auteurs de comédie qui étaient venus parler un petit peu des jeux qu'ils avaient faits. Là, on peut parler évidemment de Match 3, du Match 3 dont tu avais parlé tout à l'heure.
Oui, Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3 de Strange Scaffold, oui.
Ouais, c'est ça. Et puis derrière, on avait des jeux de self-réflexive, donc qui parlent d'eux-mêmes. C'était un petit peu le sujet de certains de ces jeux.
Ben, Creepy Redneck, il est là-dedans. Hein, donc,
Dans le concept, oui, effectivement, au niveau du concept. Mais voilà, il y avait effectivement pas mal de choses qui étaient évoquées. Et il y a eu également, alors je voulais le signaler, quelqu'un des développeurs de Sweet Baby Inc., qui sont venus parler des jeux dont ils ont participé à la création. Et, alors on peut parler de Use Your June, qui fait partie de la liste. De la sélection officielle de cette année.
Oui, je vais en parler de Usual June si tu veux.
Mais effectivement, ils ont aussi bossé sur Alan Wake 2 ou God of War Ragnarok.
D'accord.
On a également toute une partie d'un jeu qu'ils ont nommé eux-mêmes les Unbound-like, à partir de A Space for the Unbound. Donc on a Fishbowl qui est apparemment dans cette liste. Last Time I Saw You.
Et également, Last Time I Saw You, il est déjà sorti il y a un sacré bout de temps.
Ouais, mais t'avais effectivement Juan Fandinho Martin qui a bossé dessus, qui était venu parler de ça.
Last Time I Saw You, c'est Space for the Unbound, mais avec un fantôme. Hein. Mais globalement, c'était exactement ça.
T'avais également les gens qui a bossé sur la série Opus. Opus, The Day We Found Earth.
Absolument.
Opus, Rocket of Whisper,
Opus, et puis il y en a
Echo
deux.
Of Starsong.
Et puis il y a le dernier.
Prism Peak.
Voilà, et puis il y en a un qui va sortir dans pas très longtemps.
Ouais. C'est ça.
Mais voilà, les Opus, ça fait partie des jeux narratifs dont j'ai pas fait la série, mais il faut absolument que je lui mette.
Mais voilà, il y a énormément effectivement de gens qui sont venus parler de différentes formes du jeu. T'as également donc des jeux VR, les gens qui ont créé Among Us VR qui sont venus discuter aussi. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de trucs. Tu vois, on peut parler des One Thousand Six Resist, donc on l'avait dit tout à l'heure, mais qui ont parlé avec des gens qui ont créé les Perfect Tides.
Oui.
Je sais pas si ça te parle.
Si.
Scarlet Hollow aussi, et Slay the Princess, un excellent jeu narratif aussi.
C'est le jeu préféré de Tintern, non ?
C'est un jeu qui est marquant pour ceux qui y ont joué, très clairement, parce que la narration est incroyable.
Il était dans un précédent Ludonarakon, d'ailleurs.
C'est possible, tout à fait. Mais donc voilà, on a effectivement eu des discussions très intéressantes, je pense, entre différents créateurs et différents modes de jeu, enfin, types de jeux, mais. Encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, où l'objectif principal et le cœur du propos est la narration, et la narration de différentes histoires, de différentes façons. C'est The Princess étant que la dernière entrée dans la liste de très très nombreuses, finalement, des jeux évoqués dans ces différents trucs. Mais donc, on avait 49 jeux présentés cette année, et est-ce que c'est pas le moment d'en parler ?
Chers amis, et Julien, est-ce qu'on pourrait pas parler des différents jeux auxquels on a joué en termes de démos? On pourrait commencer par un jeu qui s'appelle The Berlin Apartment.
Je vais vous laisser en parler.
Très bien.
Plaisir.
Est-ce que tu saurais, tu veux que je fasse le pitch ou tu veux y aller?
Non, je vais y aller.
Je t'en prie.
Donc dans The Berlin Apartment, vous incarnez, enfin le principe c'est un huis clos. Ça se passe dans un seul appartement qui est à Berlin. Donc le titre a été très bien choisi.
Ils ne sont pas cassés la tête.
Ils ne sont pas trop cassés la tête, mais du coup le propos est bien. Puisque
titre explicite.
On va dire que vous traversez... Je pense que c'est un peu le protagoniste, c'est l'appartement. Parce
oui.
qu'au final, vous vivez à travers plusieurs protagonistes qui ont vécu dans cet appartement.
C'est ça.
Et,
à différentes époques.
À différentes époques.
À Berlin.
À Berlin et dans des époques marquantes pour Berlin.
Au XXe siècle.
Voilà. La période la plus marquante étant celle de Papy.
Oui, Papy 84 ans. Papy Joseph qui parle avec Esther.
En 1939.
En 1933, s'il te plaît.
C'est d'ailleurs ce qu'il essaye de faire.
C'est ça. Non, effectivement. En fait, le tout début, je crois que on est pendant la guerre froide, parce que on voit qu'il y a un mur, avec des barbelés qui est visible depuis les fenêtres de l'appartement, et on voit que en fait on peut communiquer avec quelqu'un de l'autre côté du mur. À ce moment-là, on ne sait pas encore si on est à
de
Berlin.
De quel côté on est?
On n'est pas à Berlin-Est, Berlin-Ouest.
Si, si, on le sait. On le sait.
On le sait justement en ouvrant la lettre.
Voilà.
en ouvrant la lettre. Voilà.
Ok. Donc le ressort narratif.
Ouais.
C'est l'appartement lui-même et ce qu'on voit autour et ce qu'on voit dedans, mais à l'extérieur également.
Ce qui est d'ailleurs assez cool, c'est justement le fait qu'on incarne un protagoniste,
lambda.
Une protagoniste d'ailleurs.
Oui, différent à chaque
fois. Différent.
Mais toujours au même lieu géographique.
Toujours au même lieu. Donc en fait, nous, en tant que joueurs ou joueuses, en fait, on connaît les lieux. On se balade dans l'appartement comme si on le connaissait. Mais exactement comme le protagoniste qui habite là depuis un certain temps, il y a une espèce d'aisance avec laquelle on contrôle notre personnage et notre environnement, qui fait qu'on se dit, oui, on habite là depuis longtemps. Et le passage de la démo se porte surtout sur la personne âgée,
oui,
qui est en 33 à Berlin.
Avec quelques flashbacks aussi.
Qui tenait un cinéma,
oui,
en face de la rue. Cinéma qui a brûlé, on se demande bien pourquoi. Et justement, on le voit qui regrette la période qui arrive, qui craint la période qui arrive, mais qui, en tant que personne âgée, se trouve bien impuissant devant ça. Et même la fuite lui semble être une option presque inconsidérée.
Je suis très intéressé par ce que va être le jeu dans sa version finale.
Oui.
Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un côté très narratif et je vais pas dire walking sim, mais pas loin en termes d'interaction. Moi, j'aime beaucoup le fait que, au final, même si tu connais pas tant les personnages à part Joseph, tu connais pas trop les personnages, mais du coup, à force, tu reconnais de mieux en mieux l'appartement comme il est fait et limite. Quand tu arrives au dernier chapitre de la démo, ou qui est le passage que j'appellerais le passage de la gentrification, en fait, tu dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, mon bel appart, tu vois, tu vois. Et
je l'ai trouvé tellement touchant, en fait, passage.
J'ai hâte, surtout que tu chopes la photo que t'as faite, entre guillemets. Donc c'est vraiment bien foutu. En plus, on a eu la chance. J'ai eu la chance de la faire. Je crois que vous étiez là quand je le faisais.
Ouais.
Et c'est vraiment très cool. En plus, moi qui suis très légèrement germanophone, forcément, je suis très 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 attiré par ce jeu.
Moi, je l'ai cité pendant que tu jouais. Deux femmes nues, une BD qui m'a beaucoup fait penser à ça, en fait, parce que au niveau du concept, parce qu'en fait, c'est une BD dans laquelle on voit le monde à partir d'un tableau. Un tableau qui a été peint en Allemagne dans les années 30 et qui voit, en fait, l'évolution à partir finalement du tableau. On voit ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là, que va devenir le tableau, où est-ce qu'il est envoyé avec les nazis, etc. Enfin bref. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, en fait. On te raconte une histoire à travers un élément qui n'est pas quelqu'un, qui n'est pas lié finalement directement aux gens en question, mais qui est lié à un objet ou à un lieu. Et je conseille effectivement Deux Femmes Nues. J'ai pas besoin de le conseiller aux amateurs de BD, puisqu'il a obtenu le prix à Angoulême l'année dernière. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait penser également à cette façon de raconter une histoire.
Je vais enchaîner avec un autre jeu, je pense que je suis le seul à en avoir joué, c'est Compensation Not Guaranteed.
Ah oui, non, effectivement.
Qui est, en fait, pour faire simple, en termes de gameplay, bon, pour ceux qui connaîtront, ils sauront direct de quoi je parle, c'est un paper please, mais avec un autre contexte. Le contexte, c'est qu'en fait, on est dans une nation qui a proclamé son indépendance, une nation de l'Asie du Sud-Est qui a proclamé son indépendance d'un royaume européen dont on qui n'est pas nommé.
D'accord. Il y a un pont entre les deux et ça s'appelle pardon.
Voilà. Asie du Sud-Est. Donc
ouais, ouais. Voilà. Bien, d'accord.
Et en fait l'État en fait réquisitionne des terrains pour construire des infrastructures et le principe c'est que les propriétaires des terrains en question reçoivent une compensation s'ils sont en mesure de prouver leur identité et leur acte de propriété. Et le truc, c'est que, contrairement à Paper Please, qui est un jeu, on va dire, un peu de grind, même s'il y a beaucoup de narration, c'est un jeu où, en gros, te trompe pas.
Oui.
Où on va essayer de t'influencer si tu te trompes, mais globalement, ce qui est te trompe pas. Là, si tu décides de pas compenser des gens, on va dire, c'est pas bien si tu te trompes, mais globalement, ils peuvent pas grand chose contre toi, t'es l'État. Et sachant que les gens ont assez peur du, enfin, ils ont peur de la puissance étatique vue comme elle était exercée jusqu'à présent.
Ok.
Voilà. Et en fait, le sujet, c'est plus les challenges d'un pays post-colonial, les problèmes entre ethnies, les dilemmes moraux, et surtout, en fait, des dilemmes moraux et des problématiques, en fait, entre ethnies, qui vont venir te hanter l'aiguille. Parce que quand t'as fait un choix pour un autre, les trucs vont te hanter. Et d'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois la démo pour savoir s'il y avait. Et effectivement, les rêves diffèrent à chaque fois quand tu fais un.
Ok.
Et c'est pas. Et parce qu'au début, j'ai eu peur que ça soit un jeu qui te dise va vers le bien, va vers le mal, tu vois. Et non, en fait, c'est quand t'as fait un choix. Quand t'as fait un choix, c'est le choix, il vient te hanter, qu'il soit bon ou mauvais, tu vois. Okay. Et là, j'ai fait OK. C'est pour ça que c'est une vibe un peu différente de Paper Please, même si les mécaniques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on va te filer un ID, on va te filer l'acte de propriété, va falloir voir si tout correspond, etc. Sauf que on est moins dans un truc où il faut vérifier au poil de cul. Attention, j'ai un bouquin pour savoir si c'est la bonne ville et tout ça. C'est plus le OK. J'ai pas les bonnes infos, mais la personne, vu ce qu'elle me raconte, est-ce que je dois quand même lui accorder le bénéfice du doute, et les choix vont dicter, j'imagine, de la suite. Et ça, je suis très très chaud parce que je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue narratif.
C'est un paper please, mais du coup beaucoup plus axé sur la narration et pas sur la mécanique.
Bah, c'est pour ça que on en parlait tout à l'heure. Ça me fait, tu parlais des héritiers de Coffee Talk, il y a un peu ça en fait. Il y a un petit peu ça. Je voulais juste. Est-ce que tu veux bien nous parler de Ésotérique EBB si tu as le temps d'y jouer?
Oui. J'ai fait la démo de Ésotérique EBB. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce.
J'imagine.
Donc c'est un jeu de Christopher Bodegaard. Moi je l'avais découvert il y a un petit moment. Il n'avait pas encore cet aspect visuel aussi travaillé, je trouve. Il s'est vachement amélioré visuellement, je trouve, ces derniers temps.
Juste, c'est un RPG.
C'est un RPG à Disco Elysium.
Ok.
Donc vraiment basé sur la narration, avec tes compétences qui te parlent et qui se foutent de ta gueule et qui t'insultent.
100% Disco Elysium.
Disco Elysium. Okay. En vue à l'isométrique. Univers médiéval fantastique, original, avec donc pas un truc qu'on connaît déjà, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup le visuel, je trouve ça très très fin.
Il y a un côté cel shading aussi,
ouais,
qui marche bien.
L'écriture, j'ai bien aimé aussi, très intéressante cette façon de te montrer finalement l'univers et te le présenter comme ça.
Tu fais mort par un zombie.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais, avec les compétences, donc comme je disais, qui te parlent, la facilité narrative évidemment de te faire démarrer comme un amnésique qui se réveille dans une morgue, qui ne fait pas que rappeler Planescape Torment pour les plus anciens d'entre nous.
Attends, on est d'accord que le début, c'est Planescape Torment.
Il manque juste le crâne qui
flotte,
veut du mal.
Mais globalement, c'est
et
la
qui,
même.
Et qui te veut du mal.
Mais globalement,
je veux pas spoiler quoi que ce soit de Planescape Torment, mais le crâne te veut du mal.
On est d'accord que les 10 premières minutes du jeu.
Oui, complètement.
C'est ça.
Et effectivement, il faut tenir un peu le coup en anglais.
Oui.
Forcément.
Va encore. C'est pas, non, pour c'est le coup, pas si par bien. Rapport à Disco Elysium, il n'y a pas genre les différents registres de langage et tout ça.
Oui.
Ça va.
Ça reste gérable. Mais c'est vachement bien intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que ça te propose. T'as des combats plus ou moins en tour par tour. Enfin,
j'ai fait exprès de prendre un personnage qui était nul en combat pour.
Oui,
pour
mais malgré tout, il y a quand même moyen de passer. Enfin,
j'ai pris un personnage full text et du coup, c'était marrant parce que mon intelligence se battait avec ma dex. Oui. Mon intelligence disait non, mais
c'est moi qui gère.
On va faire, t'inquiète, je gère. Et la dextérité dit. On peut passer là.
C'était immersif du coup.
C'est tellement.
C'était réaliste. Tu vois,
bah, à ton avis, pourquoi j'ai fait ces builds?
Voilà. Mais donc, ouais, Esoteric Ebb, un RPG à suivre vraiment. Je voulais parler également de Keep Driving.
Oui.
Qui est sorti il y a un petit moment. C'est un jeu qui est déjà sorti. Il est sorti le 6 février.
Yep.
Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a offert pour mon anniversaire. Qui est le 6 février.
Alors.
Quelqu'un que je ne citerai pas ici, qui est dans la pièce.
T'as vu mais comment il place sa date d'anniversaire, j'en pense des
gratuitement,
et tout.
Tu vois. C'est fait par le studio YCJY, un studio suédois. Bref, de deux personnes.
Pourtant, Keep Driving, ça a l'air très américain dans l'esprit.
Oui, on est clairement dans un road trip. Mais on est dans un roguelike également. Un roguelike road trip. Gestion de ressources, j'ai envie de dire, d'une certaine façon aussi, parce que donc dans lequel on doit se promener, on doit prendre, on va dire la route pour aller à une destination. Sur la route, on prend des autostoppeurs.
Oui, d'ailleurs, ça diffère un petit peu de la démo où qui disait ouais, on va faire un week-end jeu vidéo. Là, c'est vraiment
une destination. Plusieurs destinations, plusieurs objectifs, voilà, plusieurs buts.
Je trouvais ça un peu tiré par les cheveux dans la démo. Je trouve que c'est plus intéressant dans.
Voilà, là c'est plus ouvert, c'est plus intéressant. Ouais. Et donc voilà, on prend des autostoppeurs sur la route qui vont nous apporter des compétences pour résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer sur la route, que ce soit des problèmes mécaniques, des rencontres inattendues, des réflexions entre l'onirique et le métaphysique aussi. Des fois, on se tape des tripes à discuter du sens de la vie. Pareil, très belle écriture, une très bonne rejouabilité. Puisque donc les objectifs n'ont pas forcément les mêmes et les problèmes qu'on va rencontrer ne sont pas forcément les mêmes, les autostoppeurs également. Donc vraiment Keep Driving, une très très bonne surprise aussi, qu'il faudrait que j'aille un peu plus loin dans le jeu actuellement. Et je vais finir avec un jeu que je ne suis pas le seul à avoir essayé ici, qui s'appelle We Harvest Shadows.
Oh.
Alors, We Harvest Shadows, c'est un jeu de David Velo.
Je vais couper vos micros.
C'est un jeu de David Velo. David Velo, il avait fait The First Tree en 2017, un jeu d'exploration mignon avec un renard. Et quand il a proposé son jeu de gestion de ferme, globalement c'est un farming sim, avec une composante horreur, les éditeurs lui ont ri au nez, globalement. Il a quand même fait son concept trailer qui est sorti à la Gamescom fin août 2024. Les joueurs sont vus très très intéressés, sont rués pour mettre le jeu en wishlist à l'époque sur Steam, avec 60 000 wishlists en quelques jours, quasiment 200 000 en wishlist en octobre 2024. Et David Velo a donc posé la question aux gens qui le suivaient depuis un moment, est-ce qu'il devait discuter avec les éditeurs qui sont revenus en rampant, ce sont ses propres termes, vers lui, après avoir donc tout pété avec son trailer à l'époque, ou est-ce qu'il devait leur faire un gros doigt et rester indépendant. C'est la décision évidemment qu'il a fait, c'est la décision qu'il a prise, rester indépendant et sortir son jeu quand il sera fini.
Il a bien fait.
Le jeu est un jeu à la première personne, dans lequel on est censé donc prendre possession d'une ferme au milieu de nulle part, et voilà, faire pousser les tomates. C'est un jeu qui est d'abord intriguant et en gros dès les 30 même pas 3 premières minutes, ça devient terrifiant.
Non, il est pas voilà, c'est pas un jeu intriguant, c'est un jeu caca culotte.
C'est un bâtard, il nous flingue effectivement la narration à partir de trucs qui font ultra peur.
Quel enfer.
C'est un moi je suis effectivement de la team flippette. J'ai fini Alien Isolation en y jouant que la journée. Jamais la nuit, c'est hors de question. Et ce jeu-là, c'est pareil. J'y jouerai jamais la nuit.
Moi, j'y jouerai jamais.
Voilà, c'est terrifiant.
J'ai tenu 3 jours.
C'est très. Par contre, j'ai beaucoup aimé la narration. Oui. Il y a des vraies idées de narration. Il y a pas que des jumpscares et tout. Enfin, il y en a un peu. Il y a un petit peu cette logique-là, mais il y a pas que ça. Enfin, vraiment, l'histoire t'est très très bien racontée. Tu as des flashbacks sur quand t'étais gamin. Bref, j'ai beaucoup aimé ce que propose la démo. Mais par contre, c'est terrifiant d'un côté et c'est très mal optimisé. Ça a fait hurler ma carte graphique. Sans raison particulière, parce que c'est pas non plus magnifique visuellement.
C'est de l'Unreal Engine 5, je crois.
Donc c'est très mal optimisé.
En fait, c'est un moteur qui est difficile à optimiser de manière générale. Surtout pour des personnes seules. Parce que bah, du coup, ils développent ça tout seul.
C'est ça.
Et c'est pas évident. Mais mécaniquement, par contre, ils proposent quelque chose d'intrigant. Puisque Juste pour revenir un petit peu sur la proposition, quand vous lancez la démo, en fait, vous avez un protagoniste qui dit j'en ai ras le cul de ma vie.
Et il s'est basé sur un bouquin d'ailleurs, enfin bref, il s'est vachement inspiré d'un bouquin d'un gars qui a fait ça.
Le gars, en fait, décide d'acheter une ferme et de faire son truc. Et en fait, il se rend vite compte que ça pue.
Ça pue, oui, ça pue la mort.
Donc, quand Romain vous dit que c'est un jeu où on pousse des tomates, en fait, c'est juste que mécaniquement, on a des to-do list un peu tous les jours. Et ces to-do list vont nous permettre de récolter de la thune qui va nous permettre de nous équiper. C'est un peu un mélange de Farming Simulator avec un jeu d'horreur, un croisement absolument inattendu.
C'est ça.
Et je dirais incroyablement bien.
Je dirais pas Farming Simulator parce que Farming Simulator, globalement, si t'as pas des machines, le jeu te dit mais qu'est-ce que tu fous là ?
T'as un arrosoir, t'arroses des tomates, donc, tu les collectes, tu les revends, t'es un Farming Simulator.
Non, mais dans Farming, il n'y a même pas d'arrosoir. Je sais pas si t'as joué à Farming, mais c'est vraiment les machines.
Un Stardew Valley.
C'est plutôt Stardew Valley. C'est pour ça que c'était plus Stardew dans le côté.
On vit à la première personne.
Farming, c'est vraiment un jeu de putain de fan de John Deere. C'est comme ça.
Oui. Mais bon, bref.
Retourne jouer avec tes jeux avec deux boutons.
En attendant, c'est un jeu, voilà. Faut tenir le coup, faut aimer les jeux d'horreur. C'est pas mon cas habituellement, mais celui-là m'intéresse.
Et par exemple, il y a une mécanique qui est très très intrigante, c'est qu'à un moment donné, quand vous descendez pour la première fois de votre chambre, vous avez un tableau. Le tableau va servir vraiment comme un ressort narratif et surtout
c'est un
indicateur. Donc c'est un truc qui est toujours très intéressant parce que dans un jeu vidéo vous avez ce qu'on appelle un HUD, une interface qui vous dit des choses. Mais quand c'est diégétique, c'est-à-dire quand c'est à l'intérieur du jeu vidéo, c'est encore plus intéressant.
Et c'est encore plus flippant.
Plus immersif.
Et c'est encore plus flippant dans le cas de We Are Shadow, c'est encore plus flippant.
Putain de tableau qui se met à bouger comme indicateur de danger.
Il te veut du mal.
Non, mais le jeu est absolument terrifiant et infernal. C'est pour ça que je vais vu qu'on a
il nous reste une minute.
J'ai l'impression qu'on a un peu plus de temps que d'habitude. Pour une fois.
Comment il gratte ?
C'est ma mission ici. Hein. J'ai envie de parler d'un jeu qui s'appelle Unbeatable.
Écoute, tu peux en parler. Tu peux nous parler à quel point t'es mauvais à ce jeu-là.
Ah, parce que toi, t'y es bon ?
Absolument pas.
Alors, le nom me laisse penser à un jeu de rythme.
C'est un jeu de rythme. En fait, Unbeatable, il faut connaître un peu la genèse du truc. C'est que Unbeatable, c'est un jeu qu'on connaît depuis quelques années, vu qu'il y a une version qui s'appelle Unbeatable White Label, qui est sortie sur Itch.io il y a, je dirais bien, 4-5 ans peut-être, maintenant. Et à l'époque, ce qu'on y voyait, c'était uniquement la partie vraiment jeu de rythme pur et dur. C'est-à-dire que on avait un personnage et il y avait en gros des ennemis ou des notes qui arrivaient sur une ligne vers nous et avec le bon timing il fallait appuyer sur le bon bouton pour avoir le bon timing, un classique exactement comme un Guitar Hero, comme n'importe quel jeu trip que vous connaissez. Et ce jeu-là, il tapait dans l'œil pour deux raisons. Un, la bande son était incroyable, une sorte de rock très poppy et très dynamique.
Du
rock californien, tu vois.
Ouais, entre le californien et le K-pop.
Il y avait quelque chose qui était vraiment très très cool et très frais. Et très 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 engageant, joyeux, et ça marchait très très bien. Et de deux, c'était aussi DA, la direction artistique qui en gros rappelait des animés japonais et en particulier les animés du studio Trigger. Le studio Trigger, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des trucs comme Kill la Kill, comme Gurren Lagann, ou pour un truc un peu plus connu, peut-être Cyberpunk Edgerunners, que vous avez peut-être vu ces derniers temps. Et donc avec une DA assez particulière, notamment au niveau du chara-design, donc de comment les personnages sont dessinés, ce qui est très important dans ce jeu, vu que ce jeu est avant tout un jeu qui est basé sur ces personnages.
Okay.
Unbeatable avait une démo, donc ça c'était White Label, qui était sorti il y a 30 ans, qui est toujours disponible et qui est gratuit. Là, Unbeatable va être un jeu commercial, auquel il n'y a pas que les phases du coup de jeu, mais il y a aussi une phase globale de narration. C'est pour ça qu'il est dans la Ludonarracon et que c'est un des rares jeux de rythme qui est dans la Ludonarracon, où en fait on va suivre, c'est plutôt classique pour les jeux de rythme, on est dans un monde où la musique a été interdite, où c'est pas bien de faire du rock'n'roll, tout ça.
Si mais enfin on peut interdire le punk, il serait peut-être temps.
Mais entre guillemets, c'est pas le. Enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est pas le plus intéressant de ce qu'a raconté le jeu.
Non.
C'est plutôt justement les différents personnages, pourquoi ils sont là et ce qu'ils peuvent et comment ils sont amenés à ce chemin de transgression. Et surtout, les personnages que j'ai trouvé finalement les plus intéressants, c'est les personnages qui sont à la base censés être tes ennemis et te dire c'est fini les conneries. Et en fait, qui sont juste là pour te dire en fait, j'aimerais bien vous arrêter, mais vous êtes insignifiant, donc du coup, voilà quoi.
Okay.
Et donc, il y a une histoire d'ego. Il y a une histoire d'ego qui est pas souvent un ressort qui est mis en place assez
dans les jeux narratifs,
ouais. mais qui marche bien.
Le principe du jeu de rythme match très bien avec justement ce principe d'ego.
Ouais, okay. Complètement, parce que le côté guitar hero, voilà quoi, il y a ça aussi.
Oui, le côté performance,
on a un côté performance, justement, on a un côté skill qui te donne justement un peu le ressort narratif aussi qui est utilisé pour les personnages.
Voilà. Okay. Sachant que, en fait, quand tu manies ton personnage et t'es dans un univers un peu d'exploration en 3D, un peu comme les Anneaux Mutationem ou ce genre de jeu où tu vas te balader comme ça. Le truc, c'est que tu pourrais dire c'est un simple cadre où tu vas aller de baston en baston, mais non seulement en fait on va avoir une grande précision dans la mise en scène des dialogues, et en plus tu vas aussi avoir des passages limite oniriques, notamment quand tu te balades sur la plage au tout début. Je sais pas si tu l'avais fait ça.
Je suis malheureusement pas allé assez loin.
Et il y avait des choses
qui étaient très limitées.
Et il y avait. Et justement, il y avait en fait des moments où tu dis, putain, narrativement, ils ont vraiment tenté des choses très intéressantes, quoi. Okay. Ce qui est pas courant pour un jeu de rythme. Sachant que le seul jeu de rythme, auquel j'aime bien jouer, ça doit être Hi-Fi Rush, qui est techniquement un jeu de rythme, mais plus un jeu où tu tapes, en vrai.
C'est de l'action-aventure.
Ouais. Mais sur un principe de rythme, mais bon, voilà, quoi.
Ok.
Donc voilà.
On va plier tranquillement.
Yes.
Je voulais juste mentionner quand même deux trois autres trucs qui étaient dans la liste.
Vas-y.
The Silence of Black Manor.
Oui.
Qui est un jeu d'enquête par les devs de Darkseid Detective, deux Darkseid Detective qui sont excellents.
Est-ce que tu y avais joué?
Non.
Juste.
Pour Darkseid Detective, oui, pas la démo de Black Manor.
Pour parler de la démo vite fait, contrairement
à Darkseid. On se rapproche plus d'un Rise of the Golden Idol, non?
Pas vraiment en fait. Ah. C'est plus vraiment un jeu d'enquête. Pur jus. C'est les jeux d'enquête pur jus avec où tu mets, tu sais, là où tu as le tableau et tu vas mettre les différents.
Ouais, tu mets les points, tu relis les trucs, ouais, voilà. Les cases entre elles.
Là où Darkseid Detective était plus un point and click, oui, assez drôle et tout ça, là c'est vraiment un jeu d'enquête avec en plus le côté où tu vas mettre les. En plus, tu es dans un manoir et les personnages en fait sont. Les personnages peuvent bouger pendant la journée. Et donc, si tu veux visiter un truc, il faut bien qu'un personnage soit pas là ou qu'il soit à tel endroit à tel moment, etc. Okay. Donc, il y a beaucoup de mécaniques comme ça. Je trouve que c'est un jeu très ambitieux de la part de Spooky Doorway, et c'est tant mieux.
Le dernier truc que je voulais évoquer, parce qu'on n'avait pas encore évoqué, c'est Expelled de Hinkle, un studio que j'aime beaucoup au niveau narration également. Evans Vault principalement dans mes jeux préférés. On avait déjà évoqué 80 Days, mais je pensais plus à Overboard.
Oui.
Qui est beaucoup plus dans la lignée de Expelled. Mais j'avais déjà évoqué The Crimson Diamond, j'avais déjà évoqué les jeux Color Grey, donc des Golden Idol, et j'avais déjà évoqué Wonderstop avec vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette LudoNarracon 2025.
Désolé donc, Julien, on n'aura pas eu le temps pas de parler de Incombini, mais ce sera peut-être pour une autre fois pour
exactement.
Incombini.
Quand voilà. Il sera sorti, éventuellement.
Qui sera éventuellement sorti, mais de toute façon, vous savez quoi, vous pourrez retrouver un article dessus sur pressef5.fr.
Yes. Mais de la même façon que le replay de cette émission. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, on se retrouve la semaine prochaine.
Ce sera après l'Indie Game Lyon, qui est ce vendredi au CCVA à Villeurbanne. Samedi.
Ce samedi. CCVA, 14h jusqu'à 23h.
Oui.
Merci Julien.
Merci Xavier, merci Romain.
Merci à vous deux. À tout bientôt.
À la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao.